L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à aller dans la parole de Dieu ce matin? Amen. Amen. On va pencher nos têtes, on va prier maintenant pour l'enseignement de la parole de Dieu. Que Dieu vous donne une révélation personnelle à vous ce matin. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, parce que ta parole nous affranchit. Je te remercie, Seigneur, pour le travail que tu as déjà accompli dans des cœurs la semaine passée. Et je te prie de continuer à le faire ce matin. Merci pour ta présence dans cette église. Merci pour ta présence sur chaque personne. Et ce matin, Seigneur, on veut rendre toutes nos pensées captives à ton obéissance. Qu'on pense uniquement à toi, Seigneur Jésus. Qu'on pense à ta parole et qu'on puisse grandir dans tes voies. On a prié au nom de Jésus. Amen. Comme vous entendez, ce matin, ma voix est un petit peu plus rauque. J'étais à Ottawa et puis j'ai dormi à l'air climatisé. Et ensuite, par la suite, j'ai évangélisé pendant 2h30 quand ma voix était déjà très fatiguée. Alors, que Dieu vous donne sa grâce à m'entendre. Mais au moins, quand on a la voix rauque, au moins c'est plus bas, c'est pas plus haut. Plus haut, ce serait moins beau, hein? Maintenant, tournez. Non, ce ne serait pas beau. Maintenant, OK, on va vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 1, et le verset 17. Ce matin, on va continuer dans la série sur les racines. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un survol des choses qu'on a enseignées la semaine passée. Donc, dans la série sur les racines, on a parlé surtout la semaine passée de la racine du rejet dans nos vies. Et comment Dieu veut nous délivrer de cette racine-là. Dieu veut déraciner le rejet et remplacer cette racine-là et nous installer ou vraiment nous enraciner plutôt avec la révélation de l'amour de Dieu dans nos vies. Si vous n'avez pas écouté le message de la semaine passée, je vais vous inviter à aller visiter le site web evqmedia.com pour l'écouter. Je crois que c'est vraiment important que tout le monde de l'Église entende ce message-là. Et c'est des paroles de Dieu qui vont vous affranchir. Moi, je crois, une fois qu'on a la révélation de l'amour de Dieu, on ne vit pas l'esprit de rejet comme on a vécu avant. On peut être complètement délivré de cet esprit-là, l'esprit de timidité, de crainte. Tout ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu veut nous affranchir. Amen. Alors, on a parlé de ça, l'esprit du rejet. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu. C'est toujours un petit peu relié, mais on va voir des choses différentes. On a parlé comment on peut vivre notre vie derrière des murs quand on a l'esprit de rejet dans nos vies. Et comment on peut même avoir la crainte du rapprochement. On peut avoir peur du monde ou peur d'être proche des gens parce que les gens, s'ils viennent trop proches de nous, finalement, ils vont peut-être dire « je t'aime pas ». Ou il y a des gens même aussi qui vont se créer une image différente. Parce que si les gens rejettent mon image artificielle, au moins, ils n'ont pas rejeté qui j'étais vraiment. Et il y a toutes sortes de choses. Vous devez l'écouter, l'enseignement de la semaine passée, si vous ne l'avez pas entendu, parce qu'il y a des choses clés que je pense qui sont présentées là-dedans. Et également, qu'est-ce que ça amène? Ça amène à la solitude et des fois même à une dépression où on se sent super rejeté. Mais en Dieu, Dieu ne nous rejette jamais. Amen. Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous aime. Et qu'est-ce qu'on a eu comme conclusion? Si je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous, qu'on soit établis dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, on continue dans le thème des racines. Cette fois-ci, c'est la racine du déshonneur. Vous allez dire, oui, pourquoi ce Joël, la racine du déshonneur? Je crois c'est relié avec l'esprit de rejet. Et on va voir ça au fur et à mesure de l'enseignement d'aujourd'hui. Mais premièrement, dans 1 Timothée 1, 17, on va lire ça ensemble. Je crois que c'est une clé très importante qu'on comprenne concernant le déshonneur. Et c'est relié avec une autre racine, si on veut. Vous savez, souvent, une racine, c'est relié à d'autres choses également dans nos vies. Mais on voit que la racine du déshonneur, c'est relié à la honte. Quand on a honte de nous-mêmes, par la suite, on va marcher avec cet esprit de déshonneur. Et souvent, c'est enraciné tellement profondément dans nos cœurs qu'on ne le réalise même pas. On ne réalise même pas qu'on marche dans le déshonneur dans nos vies. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous déraciner de cette chose-là, du déshonneur, on vit une liberté et notre personnalité change. Je vais vous dire, votre personnalité change à ce moment-là. Dans 1 Timothée 1, 17, il est écrit. J'essaie de voir, le vent a tourné ma page, je crois. C'est dit au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc, la première chose qu'on veut comprendre ce matin concernant l'honneur ou le déshonneur, c'est que nous servons un Dieu honorable, un Dieu d'honneur. Et tout le monde qui est ici, vous allez dire oui, amen. Vous y croyez ça? Si on vient ici le dimanche matin pour louer Dieu, pour le célébrer, l'honorer, bien c'est parce qu'il est honorable. N'est-ce pas? On vient de voir au siècle des siècles, Dieu, on va pouvoir l'honorer toute l'éternité parce qu'il en est digne. Et le plus qu'on loue le Seigneur, le plus qu'on réalise qu'il est honorable, qu'il est grand, qu'il est digne de louange, le plus qu'on le loue tout seul chez nous, quand on vient à l'église, on n'aura pas de misère à louer le Seigneur parce qu'on sait qu'il est digne de louange. Il est honorable. Et ce que Dieu fait, il fait des choses honorables également. Hein? Si on comprend que Dieu est honorable, bien, il va vivre et marcher d'une façon honorable. Et quand on va entendre des choses au sujet de Dieu qui le met dans une lumière, une mauvaise lumière qu'on pourrait dire, ou une mauvaise, d'une mauvaise façon qu'on peut percevoir Dieu, on réalise comme notre Dieu est bon et comme notre Dieu est honorable, on va discerner que c'est pas Dieu qui fait telle ou telle chose. Donc, on a vu ici, Dieu est honorable. Tout le monde pourra dire oui. Et dans l'Apocalypse 4, verset 11, il est écrit, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Donc, notre Dieu est digne de recevoir gloire et honneur. Il est le roi des rois, comme on a chanté ce matin. Il est digne d'être loué. Et c'est pour toujours, toujours. Et si on comprend l'honneur, on doit voir c'est quoi la définition, n'est-ce pas? Parce que des fois, on peut parler d'un terme, et cette semaine, justement, je parlais avec quelqu'un, et je parlais de certains mots bibliques, et la personne ne comprenait pas de quoi je parlais. Donc, des fois, c'est bon de définir pour qu'on puisse tous comprendre la même chose. Parce que votre image de l'honneur, peut-être c'est d'autres choses, et c'est pas qu'est-ce que je veux dire. Des fois, on peut penser, honorer quelqu'un, c'est... De donner des éloges pour essayer de gagner des faveurs. Mais c'est pas ça. L'honneur, c'est simplement accorder l'estime, la dignité d'une personne, l'admiration que donne le mérite. Donc, certainement, Dieu mérite notre attention, Dieu mérite nos éloges, n'est-ce pas? Il mérite notre estime. Si vous parlez de Dieu et vous dites « le bonhomme en haut », je sais qu'en anglais, c'est une expression « the guy upstairs ». En français, je ne sais pas si on le dit, mais « le bonhomme en haut », en parlant de Dieu, ça, c'est une façon qu'on peut se référer à Dieu, mais c'est pas vraiment honorable. C'est pas une façon où on est en train de parler de Dieu d'une façon où on l'estime vraiment. Quand on parle de Dieu, on doit avoir l'estime dans nos cœurs pour lui. Vous savez, le peuple juif, c'est un peuple qui avait tellement Dieu en honneur, où il aimait tellement, puis il avait tellement de révérence pour Dieu, que ce qu'il faisait, c'est que dans la parole de Dieu, il écrivait même pas le nom complet de Dieu, il écrivait quatre lettres qu'on dit le tétragramme, et ça, c'était parce qu'il voulait tellement préserver l'honneur de Dieu, il n'osait même pas écrire le nom de Dieu dans la parole. C'est pour ça aujourd'hui, il y a toutes sortes de défis, ou de pas de défis, mais de débats au niveau du nom de Dieu. Et il y a des églises, qu'on pourrait dire, qui vont affirmer ben c'est un tel nom, et puis là, en tout cas, on ne rentrera pas dans tout ça, mais c'est juste pour vous dire que les Juifs voulaient vraiment honorer Dieu. Et c'est simple à comprendre parce que Dieu est honorable. Amen. Quand on regarde juste la nature, on voit les grandes choses qu'il fait. Moi, je me souviens quand j'allais en Alberta, quand j'habitais en Alberta, et je voyais les rocheuses, je faisais mes clips à télévision dans les rocheuses. À chaque fois, j'étais vraiment béni et j'honorais Dieu. Puis je disais, waouh, je regarde tout ça, là, puis je vois comment Dieu est grand. Dieu est digne. Puis quand on chante les chants, si vous avez remarqué, souvent les PowerPoints, on va avoir des montagnes. Parce que moi, ça me fait penser à la gloire de Dieu, comment Dieu est grand. Hein? Il y en a, ça va être des fleurs. Vous allez voir une fleur, vous allez dire, waouh, Dieu a créé cette fleur. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne? C'est les montagnes. En tout cas, mais des fleurs, c'est beau aussi. Mais Dieu est honorable. Mais on vit dans une société où il y a un manque d'honneur. Si vous voyez ici, là, la fille, elle roule les yeux. Avez-vous déjà parlé à Dieu, à quelqu'un? Vous avez parlé de Dieu à quelqu'un? Et là, tout d'un coup, il se roule les yeux. Ou vous parlez des principes de la parole de Dieu, et là, les gens comme, Ah, ouais. Puis là, finalement, ils vont pas respecter ou honorer la parole de Dieu. On vit dans une société comme ça aujourd'hui, où les gens n'ont pas nécessairement les valeurs de la parole. On vit dans une société où il y a beaucoup de rébellion. Si vous êtes sauvé depuis un certain moment, vous avez réalisé que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes, mais il y a des gens qui vivent d'une façon rebelle à la parole de Dieu, mais ils savent pas. C'est pas vraiment parce qu'ils ont un esprit de rébellion, c'est pas parce qu'ils veulent pas écouter la parole, c'est qu'il y a personne qui leur a prêché la parole de Dieu. Et je réalise que plusieurs des adultes aujourd'hui ont été élevés dans des familles où on ne parlait jamais de Jésus-Christ, donc ils pouvaient pas avoir des racines dans la parole de Dieu. Ils sont carrément juste ignorants, ils savent juste pas. Moi, j'ai déjà enseigné pour la commission scolaire pendant un temps, et puis je me souviens, je parlais de Jésus dans les cours, et puis je disais aux enfants, c'est qui ici qui connaît ou qui a déjà entendu parler de Jésus? Et je peux vous dire qu'il y avait plein d'enfants qui avaient même jamais entendu parler de Jésus. Et c'est triste parce qu'on habite ici en Amérique du Nord, dans un monde qui serait supposément chrétien, et on entend plus parler du Père Noël dans le temps de Noël qu'on entend parler de Jésus-Christ. C'est triste, mais c'est une réalité, n'est-ce pas? Et même, j'écoutais ça avec mes filles, j'écoutais une cassette de Passe-Partout, et sur la cassette de Passe-Partout, il y avait des chants de Jésus, il est né le divin enfant, des chants de Jésus dans le temps de Noël qu'on entendait à mon époque à la télévision. De nos jours, si vous écoutez les émissions d'enfants, on va parler uniquement du Père Noël. Et même, je me souviens, Annie Brocoli, on écoutait un spécial de Noël, c'était uniquement des chansons qui avaient aucun sens. Il y avait un sens, mais il y avait aucune profondeur dans ces paroles-là. On ne parlait jamais de la vraie raison de Noël. Alors, je prêche ça aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est dans une saison de Noël, mais tout ça pour dire qu'on vit dans une société sans Dieu et une société qui n'a pas d'honneur, souvent. Alors, ce qu'on va voir ici, la parole de Dieu a des réponses, certainement. Dans 1 Samuel, chapitre 15 et le verset 23, je vais vous inviter à tourner là. Donc, 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Il est écrit, « Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. » Quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, Dieu dit que c'est aussi pire que le péché de divination ou de l'idolâtrie. Et en anglais, quand on parle de divination, on parle de sorcellerie. Donc, si vous voulez vraiment comprendre ce sens-là, être insoumis, ou être rebelle, c'est d'être comme un sorcier ou une sorcière aux yeux de Dieu. C'est quoi ça, hein? On y pense pas comme ça, mais c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et dans Romains chapitre 13, verset 1, il est écrit « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Alors, des fois, moi, j'ai entendu parler des gens contre le premier ministre ou des fois contre la police. Est-ce que vous avez déjà parlé contre la police? Hein, des fois, on peut faire des jokes. Sont encore au Tim Hortons ou au Dunkin' Donuts. Hein, des fois, on est frustré parce qu'on pense, ils sont juste là pour donner des tickets eux autres. Puis, pourquoi ils vont pas vraiment contre, là? Pourquoi ils se mettent pas à arrêter les vrais criminels, là? Là, je viens d'avoir un ticket de 150$. Puis là, ils viennent de sortir du Tim Hortons. Puis, il me semble, là, il y a des vrais bandits, là. Puis là, on vient frustré, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà été frustré comme ça? Si vous avez déjà eu un ticket, peut-être que vous avez été frustré comme ça. Mais savez-vous que juste parler comme ça, peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, et moi-même, je peux vous dire, je ne l'ai pas réalisé quand je l'ai fait, parce que je peux vous l'avouer, j'ai déjà parlé contre des policiers. Mais quand j'ai fait ça, je marchais dans un cycle de déshonneur. J'étais en train de déshonorer ceux que Dieu avait établis pour garder la paix. Puis même si ça nous dérange d'avoir un ticket, même si ça nous dérange, faut toujours honorer ceux qui sont en leadership. Et si on n'aime pas qu'est-ce qu'ils font, Dieu nous appelle à prier pour ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont au-dessus de nous. Savez-vous ça? Dieu nous appelle pas à critiquer, Dieu nous appelle à bénir et à prier pour ces gens-là. Il y a des gens qui n'aiment pas le premier ministre Harper. Moi, je l'aime parce qu'il appuie la prière, il appuie les choses chrétiennes. Moi, j'aime ça. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait, mais si j'étais pas en accord avec lui, au lieu de le maudire, je pourrais prier pour lui comme Dieu nous demande à faire. Parce qu'une des choses, vous allez remarquer, une des raisons pourquoi c'est vraiment important d'en parler aujourd'hui, c'est que si on veut vivre la gloire de Dieu dans notre Église, moi je veux le vivre vraiment, c'est le désir de mon cœur. Il y a des choses qu'on doit établir comme fondation, qu'on doit tous être enracinés avec l'honneur profondément établi. Savez-vous pourquoi? Parce que l'honneur, là, quand on parle d'un groupe qui s'est honoré, c'est un groupe qui va se baigner dans la présence de Dieu. Le plus qu'on va s'honorer les uns les autres, le plus qu'on va vivre la présence de Dieu. Et vous allez voir au fur et à mesure que Dieu ne peut pas habiter à l'endroit où on va se déshonorer les uns les autres. Si on ne marche pas dans l'honneur, Dieu ne sera pas ici. Vous allez dire, oui, mais Dieu est partout. C'est vrai que Dieu est partout sur la planète, mais il y a des places où Dieu choisit de visiter par son esprit d'une façon tangible. Avez-vous déjà été dans une place où vous étiez conscient que Dieu était là par son esprit, d'une façon vraiment tangible? Oui. Et moi, je crois qu'on a vécu des temps comme ça ensemble, mais moi, j'ai soif pour beaucoup plus. Beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a vécu à date. Mais je crois que Dieu est en train de nous positionner pour ça. Dieu est en train d'établir des choses parmi nous, qu'on puisse marcher dans l'honneur. Et le plus qu'on va s'honorer, le plus qu'on va marcher dans l'honneur, le plus qu'on va faire plaisir à Dieu, et le plus que Dieu va dire, c'est une place où je me sens confortable. Mais le plus qu'on critique, le plus qu'on marche dans le déshonneur, c'est le moins qu'on va avoir la présence de Dieu. Et vous allez remarquer, des gens qui vont honorer des gens, d'autres personnes, on va voir que ces gens-là sont souvent bénis. Des gens, par exemple, on se demande pourquoi ils ne sont pas bénis. Par exemple, des gens qui sont remplis de talent, ok, c'est des gens, on pourrait dire, wow, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir pour réussir dans la vie, ils l'ont l'affaire, comme on dirait en québécois. Ils l'ont l'affaire, ils chantent bien, ils paraissent bien, on peut donner plein de compliments, mais pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Souvent, on va se poser la question, mais pourquoi une telle personne ne réussit pas dans la vie? Et là, on peut parler avec la personne et réaliser que même si elle a plein de belles choses dans sa vie, il y a une racine de déshonneur qui est là et puis ça maudit le restant de sa vie. C'est vraiment important. On peut parler de l'importance de la confession de la parole, mais si on confesse la parole de Dieu, mais par après, on commence à parler d'une façon qui va déshonorer quelqu'un d'autre, on est en train de vraiment maudire notre bénédiction, si c'est possible. On est en train de maudire notre vie, d'une certaine façon. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Amen. Donc, on voit la rébellion dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut bénir au lieu de maudire. Dans Matthieu 5, 44, ici, c'est écrit. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Ici, c'est les paroles de Jésus. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et je peux vous dire un principe très important à comprendre. Admettons qu'on avait un défi avec quelqu'un en politique, OK? Mettons notre église avait un défi avec quelqu'un. Pensez-y là. On a un défi avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut maudire cette personne-là ou on peut choisir de la bénir et dire, Monsieur X, Madame Y, admettons, on les bénit, on les bénit. Et la bénédiction qu'ils vont refuser de recevoir dans leur vie, devinez qu'est-ce qui va se passer? Ça va rebondir sur nous. C'est pour ça que Jésus nous disait, maudissez pas, vous êtes en train de travailler dans le cycle du déshonneur. Mais si vous bénissez, qu'est-ce qu'ils vont refuser de recevoir comme bénédiction? Dieu va vous le renvoyer sur vous. Parce que la bénédiction de Dieu doit toujours être accomplie. La parole de Dieu va toujours porter son effet. Alors, si vous avez béni et ça a été refusé, vous allez recevoir en retour. Qui veut recevoir la bénédiction? Amen. Donc, bénissez vos ennemis. Hein? Quelqu'un vous dérange dans votre vie. J'ai béni au nom de Jésus. J'ai béni. Ça te revient tout. Ça, c'est merveilleux. C'est comme ça qu'on va être béni. Dans Romains 12, 14, il est écrit, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » C'est des principes tellement importants de ne pas maudire les gens qui nous dérangent ou qui vont nous nuire dans nos vies. Parce que Dieu, justement, sait comment changer les choses pour notre bien. Et dans Ésaïe 5, verset 20, il est écrit, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Voyez, on vit dans une société qui dit que qu'est-ce que Dieu dit est mal, eux, ils disent c'est bien, et qu'est-ce que Dieu dit est bien, la société dit c'est mal. N'est-ce pas? On pourrait parler de plein de sujets, Mais souvent, la société est en désaccord avec ce que Dieu dit. Mais si on vit dans une société comme ça, on peut se laisser influencer et penser comme la société et dire « Ah ouais, c'est vrai » et changer complètement nos croyances. Mais Dieu nous appelle à demeurer toujours dans la parole de Dieu et de croire uniquement ce que Dieu dit et de ne pas être influencé avec le siècle de ce monde. Amen. Alors, la façon qu'on va le faire, c'est toujours en ayant nos regards dans la parole de Dieu. On ne veut pas être comme la société en marchant dans le déshonneur. Une des choses dans la société dans laquelle on vit, les gens n'ont pas été instruits dans les voies de Dieu concernant le couple. Et moi, je crois que Dieu veut qu'on marche d'une façon honorable, même au niveau du couple, à toutes les dimensions de notre vie. C'est important d'avoir ces bonnes racines-là. Et peut-être, si vous n'avez pas entendu parler de ça auparavant, peut-être des gens par l'Internet ou à la télévision aujourd'hui, vous n'avez pas été inculqués comme ça. Aujourd'hui, heureusement, vous allez entendre la parole de Dieu pour vous dire comment vous pouvez marcher d'une façon honorable qui va plaire à Dieu. Amen. Donc, Éphésiens 5, 31. Si on veut commencer à la base, vous savez, Dieu a institué le mariage. C'est important, le mariage, c'était institué même avant l'Église de Jésus-Christ. Donc, le mariage, c'est le point de départ. Ce que Dieu veut bénir, c'est là, le mariage. On voit dans Éphésiens 5, 31, ça dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Donc, on voit ici un homme et une femme, et les deux deviendront une seule chair. Les deux vont se marier, et puis là, par la suite, ils vont devenir une seule chair, ils vont pouvoir se procréer, avoir des enfants. C'est le modèle biblique. Est-ce que c'est biblique pour qu'un homme quitte son père et sa mère et qu'il s'en aille avec sa blonde, vive avec sa blonde dans le concubinage? Non, c'est pas biblique. Si vous ne saviez pas avant, ce n'est pas d'une façon honorable, c'est une façon de vivre dans le péché et de vivre sous la malédiction qui gouverne le monde. Mais Dieu nous appelle à vivre d'une façon différente. Pas parce qu'on est obligé et on a ce sentiment de culpabilité, c'est que si vous voulez marcher dans la bénédiction dans vos vies, vous devez marcher selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont décidé, même s'ils connaissaient la parole de Dieu, ils ont dit « Moi, je vais vivre ma vie à ma façon et je vais créer mon propre chemin vers la bénédiction. » Et ces gens-là se pensaient plus intelligents que Dieu, disant « Ben c'est démodé ça, de se marier. Moi, là, j'aime mieux, on va vivre ensemble, on va apprendre à voir si on s'aime vraiment. Et puis finalement, 2-3 ans plus tard, on verra si on veut s'engager pour la vie. » Ça, c'est la pensée du monde, n'est-ce pas? Dieu nous appelle pas à vivre ça. Dieu nous appelle quand on est prêt à fréquenter quelqu'un, OK? Là, c'est toujours dans le but, l'objectif de se marier. Moi, je me souviens, mes parents m'avaient dit, Joël, t'es pas obligé de sortir avec 10-15 filles avant de trouver la bonne. Prie que Dieu te donne la bonne. Sors avec celle-là, marie-la. C'est ça que j'ai fait. Et je peux vous dire, honnêtement, j'ai jamais couché avec aucune autre femme que mon épouse. Je me souviens que, puis en plus, une autre chose qu'on doit dire ici, c'est que Dieu nous appelle à demeurer chaste jusqu'à temps qu'on se marie. De ne pas coucher à droite et à gauche et essayer. Moi, je me souviens, je travaillais dans l'hôtellerie dans le temps, quand j'étais fiancé avec mon épouse, avec ma fiancée. Et puis les gens, eux, ils me posaient des questions. « Ah, vous ne dormez pas ensemble, vous ne couchez pas ensemble avant le mariage? » J'ai dit non. Et puis là, en tout cas, ça faisait parler le monde, hein? C'est parce que les gens savaient que j'étais chrétien. Mais ils ont dit, mais comment tu vas savoir? Je vais vous parler des choses assez honnêtes. Puis comment vous allez savoir si ça marche bien entre vous deux, là? Mais j'ai dit, savez-vous, je pourrais pas comparer. Je saurais pas. Je pourrais pas comparer. Ça fait que je vais être super heureux et béni, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais quand on prend des échantillons à droite et à gauche et vous couchez avec la femme de votre prochain, quelqu'un qui est pas destiné pour vous, vous êtes en train de voler ce monsieur qui va marier cette fille-là. C'est pas une façon honorable. La société dans laquelle on vit dit, couche à droite et à gauche, faites ce que vous voulez, en autant que ça vous sentez bien. Et par la suite, les gens se ramassent avec des maladies transmises sexuellement, ils se ramassent avec plein de problèmes, et là, c'est la faute de Dieu, en passant. Hein? C'est toutes sortes de choses comme ça. Mais Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté. Je peux vous dire, en l'an 2009, c'est possible. Je l'ai vécu, c'est possible. Amen. Je sais, c'est pas populaire comme message, puis il y en a qui vont même pas en parler, comme je vous ai déjà dit. Il y avait une église en Floride qui faisait des échanges de couples parce qu'ils disaient, ben là, faut s'adapter à la société dans laquelle on vit. En autant qu'on est chrétien, nous autres, on fera des échanges de couples. Ça, c'est pas une église tant qu'à moi. Ça, c'est pas une église. Une église, là, marche selon la parole de Dieu. Amen. Bon. Ça fait que ça, c'est une chose. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Remarquez, c'est un homme qui s'attache à une femme et les deux deviendront une seule chair. Et Hébreux 13, verset 4, ça dit que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est une chose qu'on a besoin de faire. Honorer le mariage, c'est quelque chose de bien. Et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques ou les immoraux et les adultères. Si vous ne connaissez pas ce que je viens de vous dire aujourd'hui, vous ne saviez pas avant, mais le jugement de Dieu, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous condamner aujourd'hui que je vous dis ça, c'est vous, pour vous éclairer. Si vous ne l'avez jamais entendu, là, aujourd'hui, vous pouvez dire, « Ah, je ne savais pas, maintenant, je vais mettre ma vie en règle, je vais marcher dans la sainteté, je vais me préserver jusqu'à mon mariage. » Et peut-être, si vous ne vous êtes pas préservé avant votre journée de mariage, vous pouvez devenir, on dit, une vierge après, un « second time virgin », on dit. Là, c'est quelqu'un qui a décidé par la suite, « Je ne le savais pas » ou « Je le savais peut-être, mais je n'ai pas marché comme ça. Maintenant, je veux marcher d'une façon pure, je veux marcher dans la sainteté. » Et par la suite, vous vous engagez à vivre dans la pureté jusqu'à temps que vous vous mariez. Est-ce que c'est possible? Oui, si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est possible pour nous. Amen. Amen. Et je peux vous dire, moi, j'ai connu un petit couple en Alberta. C'était un jeune couple. Ça faisait 6 ans qu'ils habitaient ensemble. Et puis, on commençait à venir à l'église avec nous en Alberta. Et c'est un petit couple, ils ont dit, on est à l'église, puis même si on ne prêchait pas vraiment là-dessus, mais on dit, on est convaincus dans notre cœur. Le Saint-Esprit nous dit qu'on vit dans le péché en ce moment. Même si ça fait 6 ans qu'on vit ensemble dans la même maison, on se sent qu'on n'est pas correct devant Dieu de vivre comme ça. On veut honorer Dieu avec notre vie. C'est quoi qu'on doit faire? Bien, si c'est un couple qui est appelé à vivre ensemble, qui sont appelés à être ensemble, ça ne veut pas dire vu qu'ils étaient ensemble qu'ils étaient appelés à l'être. Mais vu qu'ils étaient appelés à se marier, j'ai dit, vous devriez vous marier. Et qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait des cours de préparation au mariage et ces gens-là ont décidé de vivre d'une façon honorable avant de se marier. Écoutez bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, bien, nous, on n'a pas d'argent pour se payer une grosse noce. On va en avoir peut-être si on ramasse l'argent pendant 1 an. Là, c'est quoi qu'on fait d'ici 1 an? J'ai dit, bien, vous pouvez vous marier, OK, marier là, et dans 1 an, vous ferez des grosses noces. Savez-vous, quand on veut honorer Dieu, il y a une façon de le faire. Mais quand on ne veut pas le faire, quand ce n'est pas dans notre cœur, on ne le fera pas. Amen. Mais ce petit jeune couple-là, ils ont dit, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire une grosse noce en Saskatchewan l'année prochaine. Et là, qu'est-ce qu'ils avaient choisi? Ils ont choisi une date qui était, je pense que c'était un jeudi que je les ai mariés, mais dans 1 an plus tard, ça tombait sur un samedi, et là, 1 an plus tard, ils faisaient une grosse noce en Saskatchewan avec toute leur parenté. Mais 1 an avant, moi, je les ai mariés dans un parc devant 2 témoins et devant Dieu, et puis on a béni leur couple, et puis on marchait dans l'honneur dans leur couple. Eux autres, ils désiraient honorer Dieu. Ils savaient que c'était pas correct. Ils voulaient plaire à Dieu. C'est juste une question si on veut plaire à Dieu ou non. Est-ce qu'on veut se plaire nous ou on veut plaire à Dieu? Si on veut plaire à Dieu, on va marcher comme Dieu nous demande de faire. Et ce jeune couple-là, je peux vous dire, ils ont été super bénis d'honorer Dieu, puis ils ont été contents. Puis c'est ça, en passant, là, ça dit ici, dans le même texte, ça dit, le lit conjugal exempt de souillure, mais que le mariage soit honoré de tous. Dieu a créé la sexualité. Dieu a créé ces choses-là et Dieu veut bénir l'union sexuelle dans le mariage, uniquement dans le mariage. Mais quand on est dans le cadre de Dieu, on va être heureux, on va être béni. Amen. Dieu ne veut rien faire pour nous enlever de plaisir. C'est pas ça. Dieu veut toujours notre bien. Amen. Donc, l'honneur dans le couple et l'honneur dans la famille. Une autre chose très importante aussi, Dieu veut nous honorer. Et veut que notre église, notre famille marche dans l'honneur. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 25. C'est dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Si on remarque ici, il y a l'ordre dans la famille, tout comme on comprend Dieu a de l'ordre, Jésus était soumis à son Père, et la femme, dans la parole de Dieu, nous dit, est supposée d'être soumise à son mari. Ça ne veut pas dire que le mari va dominer sa femme. Ça, c'est pas biblique. C'est pas mari, dominez vos femmes. C'est femme, soyez soumise à vos maris. Donc, c'est la femme par elle-même qui décide d'honorer le leadership spirituel dans le foyer. Et c'est son mari qui est le leadership, qui est le leader plutôt spirituel. Et les maris, par la suite, Dieu dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et s'est livré lui-même pour elle. Donc, si l'homme aime vraiment sa femme, il va l'aimer à un tel point qu'il est prêt à mourir pour elle, comme Christ a fait. Et par la suite, on comprend que l'homme ne va jamais demander à la femme de faire quelque chose de désagréable parce qu'il l'aime tellement. Donc ça, c'est la façon qu'on devrait comprendre la chose bibliquement, comment on devrait comprendre la famille. Et par la suite, on voit dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4, concernant les enfants, ça dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, les enfants sont appelés à obéir à leurs parents et des honorer. Honorons nos parents dans la foi, nos parents physiques. Et Dieu nous promet qu'on va vivre longtemps sur la terre si on marche dans l'honneur au niveau de nos parents. Et il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais mon père, il n'est pas honorable. » Au verset 4, ça dit, « Et vos pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais Joël, toi, tu connais pas mes parents. Tu connais pas mon père m'a abusé, mon père m'a maltraité, ou ma mère m'a maudit, elle m'a fait plein d'affaires. Tu connais pas mes parents. » Et je peux vous dire que c'est vrai, je connais pas vos parents. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être vous aviez des bons parents, peut-être c'est des parents que vous trouvez ça facile à honorer. Mais peut-être, comme dans mon cas, moi, mes parents sont faciles à honorer. Mon père a toujours bien pris soin de nous. On était toujours en priorité. Ses enfants, c'était toujours numéro un. Mais c'est ta femme, numéro un, nous, numéro deux. Mais je peux vous dire, j'ai été élevé dans un foyer où c'était facile pour moi de trouver mes parents honorables. Ils marchaient d'une bonne façon à honorer le Seigneur premièrement. Mais si vos parents, ce n'étaient pas des parents exemplaires comme les miens, peut-être c'est plus difficile. Et vous avez dit, mais comment est-ce que je vais faire, moi, bénéficier de la promesse qui dit que je vais vivre longtemps sur la terre si je vais honorer mes parents? Mais vous choisissez d'honorer la valeur de vos parents. Chaque personne a de l'honneur, de la valeur, OK? Dieu a créé chaque personne. Dieu aime tout le monde et Dieu a placé une certaine valeur dans chaque cœur. Alors, ce que Dieu vous appelle à faire, c'est simplement valoriser ce dont lui, il valorise. Si vos parents, votre père, admettons, il n'était pas fin, il était méchant avec vous, honorez-le parce que Dieu l'a créé et il a l'esprit de vie en lui. Vous l'honorez pour ça. Vous ne l'honorez pas pour les choses qu'il a faites contre vous ou les mauvaises choses. Vous ne l'honorez pas pour ces choses-là. Vous l'honorez parce que Dieu l'honore et lui donne la vie. Puis il y a une valeur aux yeux de Dieu. Amen. Puis je vais vous dire une chose. Je connais Gwen Prankard, l'épouse de Bill Prankard. Et Bill Prankard, il a un ministère de guérison. Ça fait 40 ans qu'il prêche la guérison. Et sa femme était malade dans son corps. Puis elle se demandait, elle disait, « Je comprends pas. » Elle dit, « Je suis dans des réunions de réveil. » Elle dit, « Je prie pour les malades avec mon mari. Les malades sont guéris. Je vois tout le monde guéri. » Puis elle dit, « Moi, là, elle dit, j'ai une maladie dans mon cœur, dans mon corps. » Elle dit, « Je comprends pas pourquoi. Je peux pas me débarrasser de ça. » Après des années de temps. Et là, un jour, elle priait. Elle était à Toronto. Elle est tombée dans l'esprit. Puis elle demandait au Seigneur, elle dit, « Seigneur, montre-moi comment ça j'arrive pas à vivre la guérison physique dans mon corps. » Et le Seigneur lui a dit, « Ton père. » Elle dit, « Mon père, c'est quoi que tu dis au sujet de ton père? » Puis là, elle s'est rappelée que son père, elle ne le trouvait pas vraiment merveilleux parce qu'il avait fait toutes sortes de choses dans sa vie. Et quand elle parlait de son père, elle parlait toujours en mal. Elle disait toujours comment il avait été. Puis Dieu lui a dit, « Ça me déplaît quand tu parles contre tes parents, quand tu parles contre ton père comme ça. C'est tout vrai qu'est-ce que tu dis, mais le fait de répéter ça, ça me déplaît. » Alors, qu'est-ce qu'elle a fait cette journée-là? Elle a dit, « Seigneur, je vais te demander pardon. Maintenant, je veux honorer mon père. Je vais dire les choses positives que je peux dire à son sujet. » Il n'y en avait pas beaucoup, mais elle a dit, « Seigneur, il m'a au moins présenté, l'Église m'a présenté le salut. J'ai été sauvé à cause de mon père. » Même si le restant de sa vie, c'était tout croche. Elle a dit, « Seigneur, ça, je peux aller prendre cette chose positive. » Et là, elle a changé sa façon de parler. Elle a commencé à dire qu'est-ce que son père faisait de bien. « Mais mon père, il croyait en Dieu. Il m'a présenté Jésus-Christ. » Et là, elle a gardé le silence concernant toutes les choses négatives. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a été guérie dans son corps. Elle a été guérie. C'est une chose, là, on parle aujourd'hui, ça peut sembler comme la base. C'est facile, peut-être, à comprendre. Mais des fois, là, on va lutter pour la guérison divine. On va prier fort. On va confesser la parole. Mais il y a des racines de déshonneur qui sont là, qui empêchent la racine ou la croissance d'une guérison. Et Dieu, aujourd'hui, peut-être est en train de vous dire, comment parlez-vous de vos parents? Est-ce que vous marchez dans l'honneur concernant vos parents? Et peut-être même Dieu va vous appeler à aller vous repentir. Si vos parents sont toujours vivants et vous avez parlé d'une façon à les détruire, peut-être Dieu vous appelle à aller vous repentir. Peut-être qu'ils ne sont pas dignes, vous allez dire, ils ne sont pas dignes, ils m'ont tellement maltraité. Dieu, là, savez-vous, ce n'est pas ça qu'il regarde. Il regarde votre cœur. Est-ce que vous voulez permettre à l'Esprit de Dieu de déraciner ces mauvaises choses. Et si vos parents sont morts, sont décédés, vous pouvez juste les relâcher dans la prière. Dites, Seigneur, moi, je relâche mes parents, je relâche mon père. Et maintenant, je te remercie, Seigneur, parce que au moins, il m'a donné la vie. Si vous pouvez juste remercier le Seigneur pour votre père ou votre mère parce qu'ils vous ont donné la vie, bien, gloire à Dieu pour ça. Amen. Donc, Dieu veut qu'on marche d'une façon honorable dans nos familles. Amen. Et maintenant, l'honneur dans l'Église, c'est une autre chose très importante. Comment est-ce qu'on peut honorer Dieu? C'est en honorant son épouse. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ, c'est l'épouse de Dieu. Et si vous entendez parler contre une église dans cette ville ou ailleurs, quand on parle contre une autre église, on réalise qu'on parle contre des gens qui font partie du corps de Christ. Quand on parle contre quelqu'un dans le corps de Christ, on est en train d'insulter Dieu. On est en train d'insulter l'épouse de Jésus-Christ. Et je peux vous dire, j'ai vécu une expérience à Ottawa où une femme est venue me parler contre ma femme. Elle ne savait pas que c'était ma femme. Ma femme avait prié pour quelqu'un, puis elle avait discerné quelque chose, et la femme s'est révoltée, puis elle dit, « Hey, la blonde, là, elle nous dit ci, puis ça, là. » Puis là, j'ai écouté, « Oui. » J'ai dit, « Bien, là, j'ai dit, vous me parlez contre ma femme. » Et là, cette femme-là était tellement rebelle qu'elle a commencé à me dénigrer, puis faire ça, comme... Et ça, c'était un esprit de rébellion, puis finalement, ils l'ont mis en dehors de l'église, là, juste pour finir l'histoire. Mais pour vous montrer comment, si on parle contre l'épouse de Jésus-Christ, pensez pas qu'on va être béni. Et peut-être, des fois, on va dire, ben j'ai raison, ils sont tout croches. Ils font... Peut-être, c'est vrai. Mais Dieu ne nous appelle pas à les juger. Dieu ne nous appelle pas à parler contre eux. Dieu nous appelle à prier pour eux. Si vous voyez des gros bobos, des grosses affaires, parlez pas contre eux autres, bénissez-les. Et s'ils ne veulent pas recevoir la bénédiction, ça va nous revenir. Amen. C'est vrai. Si chaque personne de l'Église parle uniquement en bien des autres, il n'y a personne qui va pouvoir dire quoi que ce soit sur nous. Ils ne vont pas pouvoir dire, hey, ils sont arrogants, ils se pensent meilleurs que les autres. Non, au contraire, on les bénit. On bénit toutes les églises de Granby. On bénit toutes les églises du Québec. On bénit toutes les églises de la planète Terre. Amen? Ça, c'est merveilleux. On enlève le critique, on honore l'épouse de Jésus-Christ. Parce que je peux vous dire, la femme qui m'a parlé contre Mathilde, elle n'a pas tombé dans mes grâces. J'ai pas trouvé ça, oh, c'est vrai, ouais, ma femme est tout croche, ouais, c'est vrai. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça. Mais on veut honorer Dieu en honorant son épouse. Dans Romains 12, 10, ça dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ou dans la Bible du Sonneur, ça dit, faites passer les autres avant vous. Ça, c'est une façon honorable. Hein? Si tout le monde s'aime à l'église ici et on sait s'honorer les uns les autres, on va jamais parler contre l'autre, mais quand quelqu'un vit une difficulté, on va être là pour les appuyer, pour prier avec eux, pour les honorer même. Savez-vous, moi j'ai pris une alliance avec des gens, avec un cluster, et on a fait cette alliance-là. On a dit, tant aussi longtemps qu'on va marcher ensemble dans la nation du Canada, si quelqu'un est célébré, ok, admettons, il y a quelqu'un de notre cluster qui sont célébrés, ils ont une saison dans leur vie où vraiment tout le monde les bénit, on va être là pour les bénir. Mais il y a eu un temps où certaines personnes dans notre cluster ont été persécutées par l'Église de Jésus-Christ. À ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On décide, nous, d'être là pour les bénir. Puis c'est ça qu'on a décidé de faire. On va marcher ensemble dans l'honneur. On va marcher ensemble dans l'amour de Jésus-Christ. Il faut être enraciné dans l'honneur. Très important. L'honneur dans l'Église. Et c'est seulement là où Dieu habite, dans l'honneur. Et aussi l'honneur de l'autorité spirituelle. Vous allez dire, Joël, si tu me parles de l'honneur, de l'autorité spirituelle, tu vas-tu prêcher pour ta paroisse? Bien, savez-vous, je prêche pour ma paroisse parce que vous êtes dans ma paroisse. Mais je vais vous dire ici, là, dans chapitre 20, verset 27, ça dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ma responsabilité, c'est de vous donner tout le conseil de Dieu. » Amen. C'est de vous enseigner toutes les voies de Dieu. Comme ça, vous allez être béni au maximum. Pareillement, vous savez, je vous ai déjà parlé des dîmes et des offrandes. Hein, dans Proverbe 3, 9 à 10, ça dit, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Qui veut être béni financièrement? On veut tous être bénis financièrement. Et Dieu nous dit comment? Il dit, « Remettez-moi ce qui m'appartient, la dîme, qui est 10 % des revenus qui rentrent. » On remet à ça, on remet à Dieu notre dîme. Moi, je n'irai jamais vous inspecter, vous dire, avez-vous donné votre dîme ou non. Ça, c'est entre vous et Dieu. Donc, il y a la dîme et il y a les offrandes en plus qu'on rajoute quand on veut semer dans une terre concernant un besoin spécifique ou on a une vision. Bon, je vous ai déjà enseigné là-dessus sur les dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Et la raison pour ça, c'était-tu juste pour notre paroisse? C'était pour votre bien. Et comme je vous ai déjà dit, même si personne ici remettait à Dieu qu'est-ce qui lui appartenait, même s'il n'y a personne de fidèle ici, Dieu va prendre soin de nous quand même parce que Dieu est notre source. Vous en rappelez, je vous ai dit ça. Donc, je vous ai rapporté ça ici comme enseignement pour votre bien. Pareillement, là, je dois vous amener un autre enseignement concernant l'honneur de l'autorité spirituelle pour votre bien, pas pour le mien. Dans Hébreux 13, verset 17, ici, là, c'est concernant l'autorité spirituelle et en concernant tout le conseil de Dieu qu'on doit enseigner. C'est dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Voyez-vous ça? Ce serait d'aucun avantage pour vous. Dieu veut vous donner cet avantage. Dieu veut vous bénir. Et une des façons que Dieu va vous bénir, c'est lorsque vous allez honorer l'autorité spirituelle dans vos vies. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est une clé pour le réveil. C'est comment est-ce que c'est une clé? Moi, je peux vous dire que j'ai été inculqué avec ces valeurs-là quand j'étais très jeune. Et je me souviens même, moi, j'honorais mon pasteur. Puis quand on parle d'honneur, on parle simplement d'avoir une révérence dans notre cœur pour le poste que la personne tient. On réalise que Dieu a envoyé cette personne-là dans nos vies pour nous aider à cheminer avec Dieu. Bon, quand on réalise ça, on doit honorer le don que Dieu a déposé parmi nous. Dans Éphésiens 4, 11, ça nous parle qu'il a donné des dons aux hommes et ça nous parle des leaders spirituels. Si on honore ceux que Dieu nous a envoyés, qu'est-ce qui va se passer? On va être béni en retour. Je me souviens une fois, un leader spirituel me demandait de faire quelque chose que moi je trouvais ridicule. Je peux vous dire ça, je trouvais, ça n'a pas rapport. J'étais jeune dans le Seigneur, mais pas si jeune. Puis j'étais comme, ça n'a pas rapport, pourquoi est-ce que je ferais ça? Et là, je suis en train de conduire mon auto. Je n'étais pas jeune dans le Seigneur, en réalité, pas du tout. Là. Mais j'étais jeune. Je suis encore jeune, finalement. Mais je suis en train de conduire mon auto, puis le Seigneur me disait, Joël, si ton ancien t'a demandé de faire une telle chose, t'es qui, toi, pour remettre ça en question? Je t'ai demandé d'honorer ceux qui sont au-dessus de toi spirituellement. Puis tu as le choix de ne pas l'honorer, mais Dieu me disait dans mon cœur, si tu veux être béni, si tu veux aller de l'avant, honore ceux qui sont au-dessus de toi. Puis moi, je peux vous dire, j'ai fait de quoi? C'était biblique, là, qu'est-ce qu'il me demandait de faire. Mais pour moi, je trouvais ça un petit peu ridicule, puis je n'entrerai pas dans des détails. Mais ça me disait, je vais le faire par honneur pour qui il est dans ma vie. Il est mon autorité spirituelle, je vais le faire. Puis c'est biblique. Et quand je l'ai fait, je peux vous dire, Dieu m'a béni par après. J'ai vu tout de suite la main de Dieu, c'était comme, mon enfant, tu l'as fait en m'honorant moi, à cause, cette personne-là me représente et tu l'as fait pour m'honorer moi et voilà, je te bénis par la suite. Donc, et vous savez, l'image qu'on voit derrière ici, on voit Jack Cole, des années 50, qui priait pour les malades. Et dans les années 50, les gens honoraient encore les leaders spirituels, savez-vous ça? Dans les années 50, il y avait l'honneur et l'honneur a permis à un réveil de guérison, ça l'a permis à un réveil surnaturel de la part de Dieu. Dans les temps où on vit, souvent les gens vont mépriser les leaders spirituels. Puis je peux vous dire, c'est facile. L'ennemi a facilité la chose parce qu'il y a tellement de scandales de nos jours que finalement, on est là comme, hey, à qui qu'on peut croire? Qui est-ce qu'on peut faire confiance? À qui est-ce qu'on peut faire confiance? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend. Puis finalement, notre foi dans les gens que Dieu nous envoie, on n'a plus la foi qu'on avait autrefois, justement, parce qu'on était tellement déçus. Puis je pense que c'est l'agenda de l'ennemi. Parce que s'il peut faire trébucher tous les leaders, bien là, finalement, on ne va plus honorer ceux que Dieu va envoyer. Et là, une des clés pour le réveil, on ne l'aura pas. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Mais dans les années 50, les gens honoraient Dieu. Et je peux vous dire, j'écoutais cette semaine une prédication d'un pasteur africain qui fait partie des Églises de la Victoire, et il parlait justement comment les gens en Afrique honoraient les pasteurs. Puis il n'a pas parlé de plus que ça, mais moi, qu'est-ce que ça m'a dit dans mon cœur, qui me donnait comme révélation, là, c'est que, vous savez, en Afrique, on entend beaucoup parler de guérison, on entend parler de résurrection, on entend parler du surnaturel. Et nous, les Américains, les Nord-Américains, on dit souvent, bien, eux, ils vivent des miracles, ils vivent des grandes choses parce qu'ils n'ont rien d'autre, ils n'ont pas la médecine, puis ils sont désespérés, alors ils vont prier et puis ils vont voir des choses. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a déjà dit ça? On a déjà pensé à ça, tout le monde? On a déjà dit, bien, eux autres sont désespérés, ils n'ont pas la médecine, donc ils sont obligés de prier. Et c'est peut-être vrai à un certain niveau, ils vont prier plus que nous. Mais une des choses qu'ils font, c'est qu'ils vont honorer leur leader spirituel. Ils vont marcher dans l'honneur. Et ça, ça facilite la main de Dieu dans le miraculeux. Alors ça, c'est une chose, je crois, qu'on doit avoir. Puis je vous dis ça aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui vont venir après moi, tous ceux qui vont se rajouter à l'équipe pastorale, il faut avoir cet honneur pour ceux que Dieu met en place. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça dit... Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, Dieu a donné au corps de Christ les cinq ministères en vue de votre édification pour vous bâtir, vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Un principe très, très, très important, c'est dans Jean chapitre 13 et le verset 20. Puis je vais vous inviter à tourner dans ce texte-là. Jean 13, verset 20. Puis vous allez dire peut-être aujourd'hui, « Ouais, mais Joël, je l'ai en pratique dans ma vie, mais je veux juste vous emmener ça devant vos yeux ce matin, que vous puissiez réaliser l'importance, pas juste d'honorer votre pasteur, mais d'honorer même les pasteurs à l'extérieur de cette église, qu'on puisse marcher toujours dans l'esprit d'honneur. » Vous allez voir pourquoi. Ici, là, ça dit, dans Jean 13, verset 20, ça dit, c'est Jésus qui parlait, « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Voyez-vous ici l'importance, là? Je vais le relire. Ça dit, « celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. » Si vous croyez que votre pasteur, ou par l'Internet, votre pasteur est envoyé de Dieu, si vous le recevez comme étant envoyé de Dieu, vous recevez Jésus-Christ dans votre vie. Ça a l'air drôle à dire, mais c'est ça. Mais si votre pasteur vous dit, ben, j'écoute la parole de Dieu, je prends les versets, sont corrects, mais tant qu'à moi, là, lui, il me dit pas grand-chose, et là, vous parlez contre votre pasteur. Puis c'est pas le cas ici, hein. J'amène pas une correction, je peux vous dire, moi, je vis pas ça ici. Ici, on est super bénis. Je sens que vraiment, les gens nous appuient, puis je me sens honoré dans l'église ici. C'est pas un message de correction, je vous amène juste la parole de Dieu, comme ça, on va tout connaître, tout le conseil de Dieu. C'est important. Autant qu'on enseigne la dîme, les offrandes, autant on a besoin d'enseigner des choses comme ça. Parce que l'Église va grandir ici, et plus tard, vous allez voir, il y a des gens de d'autres églises qui n'ont pas ça, ces racines-là d'honneur. Il y en a là qui ont maudit leur pasteur toute leur vie. J'en connais, moi, des chrétiens qui ont parlé contre leur pasteur. Ils me parlaient à moi, ils me parlaient contre leur pasteur. Mais des fois, là, c'est des choses vraies, je peux vous dire. Mais si on peut arriver à une place que on va honorer pas les défauts, pas les choses, mais on va parler du bien, comprenez-vous? Et en passant, il y a des fois des vraies raisons de quitter une église. Des fois, il y a des choses vraiment tout croche. Et je suis pas en train de dire qu'on fait abstraction puis on oublie tout ça. Des fois, Dieu nous dit, écoute, c'est tout croche, va-t'en de cette place-là, va-t'en dans une place où ils vont suivre la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, là? Donc, des fois, il faut vraiment, Dieu nous donne une tête sur les épaules, c'est pour s'en servir. Mais je suis en train de vous donner le principe d'honneur, en général, OK? C'est pas un principe, gardez vos yeux fermés puis tout est beau. C'est pas ça, là. OK, mais on comprend ici, c'est de recevoir ceux que Dieu a envoyés. Puis c'est pas quelqu'un qui s'est improvisé pasteur non plus. Il y a des gens qui s'improvisent, qui n'ont aucune formation, aucun appel, ils n'ont jamais été reconnus de personne d'autre, mais ils disent, hey, je suis pasteur tout d'un coup, puis ils enseignent la parole tout croche, puis là, ils veulent que tout le monde les suive. Ça marche pas comme ça. La façon biblique qu'un pasteur est en place, c'est qu'il est premièrement reconnu dans son église locale, par la suite, il est reconnu par des leaders au-dessus de sa vie, puis là, il est appuyé, puis il est béni, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas été béni et relâché, c'est pas biblique. Moi, j'ai été béni, j'ai été relâché pour le ministère. C'est quelqu'un qui s'est relâché soi-même, c'est pas le modèle biblique. OK? C'est une autre chose importante, là. Parce que, là, je vais essayer d'aller assez rapidement, parce que le temps avance. Mais si on veut voir, le ministère, si on veut être béni, il faut recevoir Jésus parmi nous, n'est-ce pas? Mais si vous ne recevez pas le prédicateur que Dieu vous a donné, vous ne recevez pas vraiment le ministère de Jésus dans vos vies. Puis en Afrique, eux, ils l'ont compris, ça. Ils l'ont vraiment compris. Et ils vivent dans l'honneur. Parce que, vous savez, dans Matthieu 13, verset 57, on comprend que c'est facile à critiquer. Vous allez dire à n'importe qui, pouvez-vous trouver une faute sur Joël aujourd'hui? Sûrement. Il y a quelqu'un qui va pouvoir dire, mais ça, j'aimais pas ça, ça, j'aimais pas ça, ça, j'aimais pas ça. J'aimais pas ses souliers, j'aimais pas sa chemise, j'aimais pas sa voix, sa journée-là était fatigante. Vous pouvez trouver c'est facile à trouver des critiques. Mais est-ce que vous avez trouvé quelque chose de bien? Savez-vous qu'il y a bien des gens qui ont de la misère à trouver des choses de bien, peut-être chez le pasteur, ou même entre les frères et les sœurs. Parce que la critique, c'est facile. N'importe qui peut devenir un expert et dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Même les gens ont critiqué Jésus. Jésus a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Même Jésus était critiqué. Même Jésus qui faisait des miracles, il y avait même une foule qui pouvait le critiquer. Alors, on doit comprendre rapidement que n'importe qui peut être critiqué, même Jésus. Mais Dieu nous donne une façon de discerner les choses. Dans 1 Timothée 5:19, ça dit, « Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la disposition de 2 ou 3 témoins. » Donc, quand quelqu'un parle contre un autre pasteur, si vous écoutez et vous acceptez le rapport, et là vous commencez à parler à droite, à gauche, la parole de Dieu nous dit de ne pas recevoir une accusation, à moins qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui vous confirment la même chose. Et là, si vous avez une confirmation, ça vous dit, fais attention à ce pasteur-là. OK? Expose-toi pas à quelque chose ou à quelqu'un qui peut être dangereux. Et là, la personne devrait être reprise, tout ça. Et dans Actes 5:29, ça dit, il faut obéir Dieu plutôt qu'aux hommes. Certainement, on veut honorer Dieu premièrement. Et s'il y a un homme de Dieu qui marche tout croche, qui enseigne des faussetés, on veut toujours honorer Dieu premièrement. Mais ça demeure que faut pas accepter la philosophie du monde que c'est facile de toujours critiquer tout le monde. Parce que si on accepte plutôt de marcher dans l'honneur, on va semer l'honneur et on va récolter l'honneur dans nos vies. Dans Matthieu 10:41, ça dit, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense du juste. » Alors, peu importe que ce soit en qualité de prophète, en qualité de pasteur, apôtre, peu importe le titre que vous voulez mettre, quand vous recevez un homme de Dieu dans la qualité de son appel sur sa vie, vous recevez une bénédiction par la suite et vous allez recevoir la même récompense que cette personne-là. Avez-vous réalisé ça? Mais si vous avez un pasteur, un prédicateur, peu importe, qui vient parmi vous et vous recevez juste des versets de la parole de Dieu, mais vous ne recevez pas l'homme de Dieu, vous ne recevrez pas la bénédiction qui vient avec. C'est quoi ça, hein? Puis il y en a qui ne prêcheraient même pas ce que je vous dis là parce qu'ils seraient trop inconfortables. Ils diraient, Colin, il prêche pour sa paroisse. Mais je vous donne toutes les clés pour être béni. Toutes les clés. Vous prenez qu'est-ce que vous voulez. Puis si vous n'aimez pas ça aujourd'hui, revenez la semaine prochaine, ça va être d'autres racines. Amen. Mais c'est vrai, il faut avoir toutes les clés possibles pour être béni. Parce qu'il y en a là, il y en a peut-être, vous remettez votre dîme à Dieu puis vous dites, je comprends pas. Je suis fidèle dans mes dîmes, je suis fidèle dans mes offrandes, je fais ça, je fais plein d'affaires. Comment ça, on arrache tout le temps? Mais peut-être Dieu vous dit, est-ce que tu honores ton leadership spirituel? S'il n'y a pas l'honneur dans ta vie, même si tu fais tes dîmes, tu fais tout ça, il y a une dimension dans ta vie que tu manques. Si tu maudis ton pasteur, il a prêché, puis qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez vous? Tu fais le routier du pasteur. Il y a une expression en anglais, c'est comme, c'est quoi vous avez mangé pour dîner après l'église? Celle du pasteur. Parler contre le pasteur. Roasted pastor, qu'on dit en anglais, là. Mais des gens qui vont tout le décortiquer, puis il est un bon rien, non. Puis j'en ai entendu des chrétiens, moi, là, qui me parlaient contre leur pasteur. Je me dis, si tu l'aimes pas, ton pasteur, va pas t'asseoir en dessous de son autorité spirituelle. Tu pourras pas être béni. Puis là, le monde se demande pourquoi ils sont pas bénis dans leur vie. Ils peuvent pas être bénis par lui, ils l'aiment pas. Je l'ai déjà dit ici, les gens qui sont à l'église sont supposés de m'aimer. Ils sont supposés d'aimer ma femme. C'est vrai? Si vous m'aimez pas la face, c'est pas à bonne place pour vous autres. Vous pourrez pas être béni. C'est normal. Hein? Moi, j'ai eu la révélation, j'étais à Calgary, puis c'est Dr. Hazel Hill qui disait, si le monde ne vous aime pas, ils ne sont pas appelés pour être avec vous. C'est du monde qui vous aime. Moi, je suis posé de vous aimer. Moi, je vous aime tous. Je vous aime tout le monde ici, là, je vous aime. Puis si vous m'aimez, hey, on va s'aimer. Ça va être le fun. Hein? C'est ça. C'est bon, ça. Mais c'est une question de loyauté, d'honneur, tout ça que Dieu veut. Et une chose vraiment importante, je vais trouver le verset, là. Écoutez, dans Psaume 133, verset 1. Ici, ça dit, « Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Et le contexte qu'on voit, c'est dans l'unité, dans la soumission. OK? C'est comme l'humilité, c'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descendue sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, la montagne d'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Comme l'huile qui descendait sur la barbe d'Aaron quand on l'oignait d'huile, OK, on peut comprendre la gravité. Comme ça part de la tête, ça va sur sa barbe, ça allait sur ses vêtements. L'huile, l'onction de Dieu, commence par celui qui est au-dessus de votre vie spirituelle. Ça commence là. Si vous bénissez votre leadership spirituel, l'huile de Dieu vient sur vous. C'est la façon biblique, ça dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Si vous ne pouvez pas, si vous ne trouvez pas le leadership spirituel de cette église comme étant honorable, trouvez-vous-en une église où vous allez pouvoir avoir confiance dans le leadership et honorer. Allez vous en trouver une église, comme ça vous allez être béni dans votre vie. Parce que ça dit, c'est là. Puis vous savez, dans Jean 12, 26, ça dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Puis où c'est qu'on va suivre? Dans l'honneur, certainement. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous savez, si vous voulez suivre le Seigneur, vous allez être à la même place que lui. Mais Dieu ne demeure pas dans l'endroit du déshonneur. C'est une racine de déshonneur dans vos cœurs où vous avez toujours parlé contre un pasteur ou parlé contre votre autorité spirituelle par rébellion. Bien là, Dieu n'est pas avec vous dans cette chose-là. Aujourd'hui, c'est une parole assez difficile peut-être à prêcher, hein, comme la semaine passée. Hey, Dieu m'en donne des moins durs des fois, mais c'est plus dur. Mais ça, c'est une chose tellement importante. Ici, là, qu'on marche dans l'honneur, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On veut honorer Dieu. On veut honorer celui que Dieu a mis sur notre vie. Moi, je peux vous dire, j'ai suivi ce modèle-là dans ma vie. Puis comme je vous ai dit tantôt, des fois, là, on a un homme de Dieu. Puis moi, je trouvais, il n'était pas si honorable que ça. Mais j'ai décidé, si je vais l'honorer, parce qu'il est un don de Dieu. Dans Éphésiens 4, 11, ça me dit, il est un don de Dieu dans ma vie. Puis si c'est un don que tu m'as donné, je vais honorer Dieu pour ce don-là dans ma vie. Amen. Puis mutuellement dans l'Église, on doit s'honorer les uns les autres. Et quand on va avoir des nouvelles personnes qui vont se rajouter constamment, déjà ça va être établi dans l'Église. Quelqu'un vous arrive et dit, ah, finalement, Joël, là, t'as-tu trouvé ça tout croche que ce que tu dis dimanche? Vous allez savoir, c'est ça, on parle pas comme ça de mon pasteur. Vous allez l'avoir. Puis si vous ne l'avez pas dans le cœur, que Dieu vous le donne. Est-ce que quelqu'un vient me parler? Ouais, mais Fernande, t'as-tu mal habillé? Excuse-moi, parle-moi pas contre ma sœur, même qui est ma mère, parle-moi pas contre elle. Je ne veux pas entendre des affaires de même. Si on marche dans l'honneur, là, wow, c'est la recette, là, je peux vous dire, on est en train de prendre des clés ici pour vivre le réveil. C'est là où Dieu donne la bénédiction. Amen. L'honneur, c'est votre source de bénédiction. Dans Jacques, chapitre 5, verset 13 à 15, ça dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Voyez-vous, une des clés, c'était, là-dedans, c'était qu'il appelle les anciens de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église a besoin des anciens. L'Église a besoin d'un leadership spirituel. Il y a des gens qui disent, moi, je peux vivre ma vie chrétienne tout seul, comme ça, j'ai pas besoin d'église locale, j'ai pas besoin de pasteur, je peux la vivre ma vie chrétienne. C'est pas biblique. La Bible dit, pour être accompli à toute bonne œuvre, là, comme on a lu dans Éphésiens 4, 11, pour être accompli, pour être édifié, vous avez besoin des dons que Dieu a donnés à l'Église, vous avez besoin des 5 ministères. Et en plus, pour la guérison physique, ça dit, appelez les anciens. Ça veut pas dire qu'on peut pas prier pour vous quand on n'est pas ancien. C'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est un principe qu'on voit ici d'honneur, encore une fois, qu'il appelle les anciens. Et l'ancien qui représente Dieu dans la situation va prier et on va voir la guérison. Amen. Donc, c'est une source de bénédiction. Et si on regarde ensemble, juste vous dire, il y a un mythe. Moi, j'ai entendu quelqu'un une fois qui me parlait d'un pasteur. Je peux vous dire c'est qui? Pasteur Claude Wood, qui est le pasteur de la plus grosse église au Québec. Ils ont 3500 personnes, je crois. C'est une grosse église. Et quelqu'un me dit, Claude Wood, c'est un gars, je vais le redire, là, le micro. La personne a dit, c'est un gars comme les autres, hein. C'est un gars, je peux vous dire, tout de suite, j'ai arrêté la personne, j'ai dit, mais excuse, c'est pas un homme comme les autres. C'est pas correct. La mentalité, là, je peux vous dire, du déshonneur, là, est tellement dans la société que ça l'a même entré dans nos églises. C'est pas un homme comme les autres. Savez-vous pourquoi? Bon, on va regarder dans Nombre, chapitre 16, verset 3. Essayez de pas vous endormir. Je vais essayer de finir ça, là. Nombre, chapitre 16, verset 3. Écoutez, ça dit ici, « Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron. » C'est le peuple d'Israël. « Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lançaient. » C'en est ainsi, celle de la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? Donc, le peuple d'Israël, t'es qui, toi, là? Vous êtes qui, vous autres, pour vous mettre au-dessus de la communauté de l'Éternel? Vous êtes qui? » OK, c'est dans Nombre, chapitre 16, verset 3. Il y avait toute l'attitude de la rébellion qui était là. Vous êtes qui, vous autres? Mais savez-vous, vous êtes qui? Il y a des exigences spirituelles pour un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui sont en leadership spirituel, qui ne sont pas là dans le restant du corps de Christ. On a bien beau dire qu'on est tous égaux. On est tous égaux dans notre valeur. OK? Si je ne prêchais plus demain matin, je ne perdrais pas ma valeur et vous avez la même valeur aux yeux de Dieu que moi. OK? On a tous la même valeur. Il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Cependant, écoutez bien ceci. Il y a des exigences supérieures sur le pasteur. Qu'on le croit ou non, dans Jacques 3, verset 1, ça dit « Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Savez-vous que ça me dit? Je vais avoir un jugement plus sévère que vous qui n'enseignez pas. Je vais passer au cash plus que vous autres. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a un critère plus difficile pour moi. Je vais être obligé de rendre compte pour toutes les paroles que je vais avoir prononcées. Vous aussi d'ailleurs, mais moi, ça va être à un niveau différent. Dans 1 Timothée 3, verset 1, ça dit, ça c'est les exigences sur ma vie, là. Ça dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qui veut dire pasteur, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il en soit, qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre, et dans les pièges du diable. Et les conditions également continuent dans titre 1, 7 à 9, si vous voulez en avoir d'autres. Il y a des exigences qui sont placées sur le prédicateur, qui ne sont pas placées sur les autres. Alors, s'il y a des conditions différentes, on n'est pas tous au même niveau dans notre leadership ou dans notre responsabilité. On a des responsabilités différentes. Avec les responsabilités différentes, il faut également, à ce moment-là, comprendre que si quelqu'un a une responsabilité différente, il y a aussi une charge et par la suite, de votre côté, il y a une réponse différente. Si quelqu'un dans l'Église vous demande quelque chose, ça ne sera pas la même chose comme si moi je vous demande. Si par exemple, que je demandais à quelqu'un, peux-tu faire le système de son? Bien, si quelqu'un d'autre de l'Église vous demande la même chose, l'autre personne n'a pas l'autorité de vous donner cette charge-là. Vous comprenez? Et c'est des choses comme ça qu'on doit comprendre. Et si on comprend ça, et moi je crois ici à l'Église, on comprend l'autorité spirituelle. Si on honore ça et on ne marche pas dans la rébellion, on va tous être bénis. Puis à date, moi je peux vous dire, je ne pense pas qu'il y a personne dans l'Église ici qui a senti que j'ai demandé des choses qui étaient différentes ou qui étaient difficiles ou comme qui étaient... Moi je ne m'impose pas sur personne. Moi je laisse la paix de Dieu et qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est célébrer le don de Dieu dans chaque personne. Si Dieu vous a donné un don, moi je vais être là pour vous encourager, vous célébrer là-dedans. C'est ça mon cœur, c'est pas de m'imposer sur vous. Je ne suis pas un dictateur, c'est pas ça. Cependant, on veut toujours se rappeler que quand il va y avoir d'autres ministères qui vont se joindre à nous, les 5 ministères, on va toujours se rappeler qu'on marche dans l'honneur. Dans cette église, on marche dans l'honneur mutuel, on s'aime les uns les autres et on va honorer aussi les autres pasteurs qui viennent. En passant, dans les églises de la Victoire, comment ça se procède dans les autres églises, tout le monde appelle le pasteur « pastor quelque chose ». Moi ici, j'ai pas besoin du titre, si vous voulez l'utiliser, ça me dérange pas, mais c'est le principe de l'honneur dans le cœur, c'est ça. C'est toujours ça. Et quand on va avoir des pasteurs du mouvement, des églises Victory qui viennent, c'est très important de toujours les appeler pasteur un tel. Très important, c'est vu, très mal vu en Alberta. Moi, quand j'étais là-bas, ils ont eu tout un enseignement sur l'utilisation du titre pasteur puis comment ils voulaient qu'on emploie ça. Je pense pas que je suis dans l'esprit de rébellion en vous disant que ça me dérange pas, mais pour moi, ça me dérange pas. J'ai pas besoin, mais si vous voulez, ça me dérange, que Dieu vous bénisse. Mais quand on a des gens de l'extérieur qui viennent dans notre église, qui sont pasteurs dans les églises Victory, on veut dire pasteur so and so, parce que eux, ils vont voir ça comme un manque de respect. Ça dépend des cultures. Au Québec, c'est différent. Mais dans le monde anglophone, c'est différent aussi. Juste vous donner une note comme ça, comment ça marche dans le monde. Et une des raisons pourquoi, OK, pourquoi il y a le déshonneur de l'autorité spirituelle, bon, ben ça se reflète dans toute la société. Les gens, là, ils veulent pas honorer l'autorité spirituelle, ou même il y a des gens, des fois, que vous avez aidé. Admettons, vous avez aidé quelqu'un à découvrir Dieu, et par la suite, ils vous donnent même pas le crédit des avoir aidés. Connaissez-vous des gens que vous avez aidés et par la suite, ils vous disent, « Ah, ben c'est le Seigneur qui m'a donné la révélation. » Ouais, mais il me semble c'est moi, je t'ai tout raconté, le cheminement de ma vie, puis finalement, là, t'as compris de quoi, puis t'as changé de direction. « Ah, ben moi, c'est le Seigneur qui m'a donné la révélation. » Connaissez-vous des gens comme ça qui vont même pas vous donner le crédit pour qu'est-ce que vous avez partagé? À quelque part, là, ça, c'est des gens qui refusent d'honorer quelqu'un qui les a bénis. Pourquoi est-ce qu'ils vont refuser de bénir quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'ils vont refuser d'honorer? C'est parce qu'ils ont honte. À l'intérieur d'eux autres, là, c'est la racine de déshonneur va également, c'est une racine de honte dans leur vie. Ils ont quelque chose. Ils ont honte de quelque chose qu'ils ont peut-être vécu dans leur passé qui est là. Et s'ils donnent le crédit ou l'honneur à quelqu'un d'autre, ils sont en train de se diminuer. Alors souvent, qu'est-ce qu'on va voir chez ces gens-là? C'est que les gens vont dénigrer les autres autour d'eux pour s'élever. Connaissez-vous des gens comme ça qui vont toujours parler contre les gens, puis le plus qu'on parle contre, le mieux qu'on se sent bien? C'est ça, c'est une racine qu'on doit faire déraciner dans nos vies. Si je vous parle contre un frère, une sœur, c'est pour m'élever. Souvent, c'est ça. Et bien sûr, ça vient à cause de la racine du rejet. Encore une fois, la racine du rejet qui a causé une honte, et puis par la suite, on ne veut pas honorer personne, on ne veut pas qualifier ou valoriser quelqu'un. Mais imaginez, si vous commencez à valoriser les gens qui vous ont béni, quelqu'un vous a aidé, vous a donné une révélation qu'ils ont reçue dans leur vie et vous l'ont partagée, et là après vous pouvez dire, « Hey, merci, tu m'as partagé de quoi qui a changé ma vie. Aujourd'hui, si je suis où je suis, c'est à cause de toi. Dieu s'est servi de toi dans ma vie. » Imaginez si vous aviez fait ça ou si vous commencez à faire ça dans vos vies, Dieu va voir l'honneur que vous avez semé dans sa vie et Dieu va vous en donner en plus de l'honneur. Vous n'avez pas besoin de dénigrer quelqu'un pour être élevé. Vous avez simplement à recevoir la plénitude de l'amour de Dieu dans vos cœurs et être guéri de cette honte. Parce que vous savez, Jésus a payé pour vous. Le déshonneur là dans la société, ça n'appartient pas à l'Église. Si vous, des fois vous avez le goût, là, vous connaissez la vérité, vous savez qu'une telle personne vous a béni, pourquoi pas ne pas le dire? Pourquoi pas célébrer la personne? Moi, j'aimerais ça entendre plein de témoignages ici, comme « Hey, Mélissa m'a dit ça l'autre jour, elle m'a encouragé, ça m'a béni, ça m'a fait chaud au cœur. » Il y a des gens qui vont dire « Mais là, je ne dirais pas ça, là, elle m'a fait chaud au cœur, là, franchement. Là, » C'est vrai? Si c'est vrai, elle vous a fait chaud au cœur, les paroles qu'elle vous a prononcées, pourquoi pas le dire à tout le monde « Hey, ça m'a fait assez du bien quand Mélissa m'a dit ça. » Eh bien là, le monde va dire hey, « Super, cool elle, Mélissa, on l'aime Mélissa, on est en train d'encourager le monde à l'aimer. » C'est vrai? Hein? Pourquoi on ne s'encourage pas tout le monde à faire ça? Mais le déshonneur, c'est comme tout le monde sont la pourriture, puis finalement, c'est moi qui est hot. Ça, c'est la pensée du monde qu'on ne veut pas. On doit déraciner ces choses-là. La racine du déshonneur, c'est souvent l'orgueil, la rébellion. Je suis plus hot que tout le monde et augmenter ou élever quelqu'un, ça me fait pas plaisir. Quand on comprend que Jésus a porté notre honte, on n'a plus besoin de marcher dans la vie avec cette racine-là dans nos cœurs. Moi, je crois, là, c'est une parole super simple que je vous ai apportée aujourd'hui. C'est simple, hein, c'est rien de super théologique compliqué. Mais une chose comme ça peut vous empêcher d'avancer dans votre vie. Le manque d'honneur envers Dieu concernant votre vie de couple, ou peut-être dans votre famille, ou peut-être dans votre église locale, ou même au niveau du leadership spirituel dans votre vie. Ces choses-là, si vous avez des mauvaises racines de déshonneur, ça va vous empêcher de recevoir la bénédiction dans vos vies. Et qui ici aimerait être béni au max? On veut être béni au max. On veut toute la bénédiction de Dieu. Amen. On veut être guéri. On veut être prospère financièrement. On veut toutes les promesses de Dieu. Alors, allons là, faire du jardinage. Déracinons les mauvaises herbes dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit faire le ménage. Puis là, on se repent, on dit, « Seigneur, c'est vrai, j'étais rebelle. C'est vrai, Seigneur, je parlais contre des gens. Au lieu d'honorer, je maudissais. Seigneur, enlève ça de ma vie. Je me repens aujourd'hui. » Puis si vous faites ça, watch out, là. Tout le monde, là, vous allez commencer à... Je peux voir toutes ces plantes-là commencer à grandir. Tout un beau jardin, des racines fortes, là, des racines dans la parole de Dieu qui sont riches, là, puis la terre est riche, puis... Tout le monde, là, c'est des feuilles resplendissantes qui sont toujours vertes, comme on a vu la semaine passée. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans Ésaïe 53, versets 3 à 5, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus-Christ a vécu la honte. » La pire mort, la façon qu'il est mort sur la croix, c'était la mort des pires espèces, des prisonniers, des bandits. C'était honteux de mourir comme ça. Mais pourtant, Jésus n'est pas mort égorgé. Jésus est mort sur la croix pour payer votre honte. Vous n'avez plus besoin d'avoir honte du passé. Vous n'avez plus besoin d'avoir honte des péchés du passé. Jésus a tout payé pour vous. Et pendant que l'équipe de la louange s'avance ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse se tourner vers Dieu et recevoir ce matin la liberté de toute honte. Si l'ennemi vous rappelle des péchés du passé, aussi, je vais vous lire un texte dans la parole. Dieu, là, aujourd'hui, veut vous libérer. Il veut vous sortir de cette place complètement, complètement libre, avec aucune racine de honte. Amen. C'est dit ici, dans le psaume 103, verset 11, c'est dit « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dieu prend votre péché puis il éloigne de vous aussi loin que vous pouvez imaginer. Il va même placer vos péchés dans la mer de l'oubli. Toute la honte du passé s'est payée. Vous n'avez plus besoin de vous défendre pour vous qualifier. Aujourd'hui, en Dieu, vous êtes qualifié. Puis je sais, il y a des gens, là, que le Seigneur me ramenait à la mémoire. Dieu me ramenait quelqu'un qui avait été violé en tant qu'adolescente. Puis à cause de cette honte dans sa vie, toute sa vie, là, elle a été remplie d'amertume, puis a été remplie de cette racine dans son cœur où elle parlait contre les autres. Pourquoi? Je me dis, pourquoi qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle parle contre tout le monde? Pourquoi est-ce qu'elle veut détruire tout le monde? Il y a cette racine de déshonneur. Elle a été... On lui a manqué de révérence. On l'a transgressé. On l'a abusé de cette personne-là. Et là, à cause de cette blessure profonde dans son cœur, elle marche blessée comme ça. Puis elle veut démontrer aux gens, « Hey, je suis digne de quoi? Je vaux quelque chose. » Mais Dieu aujourd'hui vous dit, « Vous valez quelque chose. » Vous n'avez pas besoin de marcher avec cette racine-là aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter ce matin. On va prier ensemble et on va remettre ces racines-là au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? S'il y a même une chose dans votre vie, là, juste une chose, peut-être que vous avez vu, moi, à ce niveau-là, j'ai besoin que ça soit déraciné. Et là, on va laisser la racine de Dieu, la parole de Dieu concernant l'honneur. Et on va voir ça s'établir dans nos vies. Seigneur Dieu, on vient devant toi. On te remercie, Seigneur, pour tout le conseil de Dieu. Seigneur, des paroles que tu nous donnes qui nous fait sauter, puis il y en a d'autres qui nous font penser, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur, on veut prendre ces paroles, les versets que tu nous as donnés ce matin. On veut méditer sur ces versets-là et on prie, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, prennent naissance et puissent s'enraciner profondément dans nos cœurs. Ce matin, Seigneur Jésus, on prie que toutes les mauvaises racines de honte, de déshonneur, Seigneur Dieu, que ces racines-là soient enlevées de nos cœurs ce matin même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, on se repent, Seigneur, d'avoir marché avec ces racines-là. On maudit ces mauvaises racines et aujourd'hui, on bénit les racines d'honneur que tu nous mets en nous. Merci, Jésus, parce que tu as porté, Seigneur, toute notre honte. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous qualifies et ton amour est là pour nous. Même quand on était pécheurs, Seigneur Dieu, tu es mort pour nous. Tu nous as démontré ton amour. Et Seigneur Dieu, ce matin, on veut recevoir la plénitude de ton amour dans nos cœurs. Et Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que tu guérisses ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, qui ont marché dans la rébellion, qui ont eu peur d'honorer des gens dans leur vie, qui ont eu peur de donner le crédit où le crédit était dû, Seigneur. Je te prie aujourd'hui même que tu les délivres au nom de Jésus, qu'ils soient libres aujourd'hui même et que ton onction de guérison, ton baume de guérison vienne dans leur cœur et qu'ils quittent cette place libre, flottant, libre comme l'air, Seigneur Jésus. Et que maintenant, ils vont marcher dans une vie qui vont t'honorer, Seigneur Dieu. Ils vont t'honorer à chaque niveau dans leur vie. Ils vont t'honorer, Seigneur, dans leur couple. Ils vont t'honorer, Seigneur, dans leur famille et dans leur église, Seigneur Jésus. On a prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ta gloire, Seigneur, que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que Jean, tu peux nous conduire dans des chaînes. Je vous donne du courage si vous avez écrit des notes ce matin, des versets. Laissez le Seigneur travailler dans vos cœurs. Puis vous savez, des fois, là, c'est pas juste une prédication qui nous fait vraiment recevoir ce message-là. Des fois, il faut le réentendre. Ils sont disponibles sur l'Internet. La semaine prochaine, on va continuer avec les racines. Et cette fois-ci, je crois que Dieu va vous donner peut-être des élastiques dans vos jambes pour vous faire célébrer. Hein? Il y a des temps, des fois, où on réfléchit. Il y a d'autres temps aussi où on célèbre. Et je crois qu'on est dans un cheminement ensemble où on est en train de s'enraciner dans la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.